puis tu chantes, depuis John Cage, tout est possible en art.
Les artistes sont toujours là, moi l'artiste je fais ceci, moi l'artiste je fais cela.
Ce sont des croûtes.
Je pense qu'il n'y a vraiment aucun débouché pour les artistes en général.
La conversation des artistes du Fonds d'art contemporain Paris Collection.
Eh bien, je me suis beaucoup baladé à Paris, j'ai souvent regardé les murs et je trouvais tout ce qui se passe sur le mur est très intéressant.
Quoique l'artiste doit disparaître un peu. Alors là, j'aurais bien aimé une interview où on vous voit que vous et pas moi.
Par Zineb Souleimani.
Le Fonds d'art contemporain Paris Collection existe depuis 1816. S'il a plusieurs fois changé de nom au cours de son existence, il n'a cessé de s'étoffer et de professionnaliser ses modalités d'acquisition et de conservation. Aujourd'hui, le fonds compte quelque 23 000 œuvres et s'enrichit annuellement de plusieurs dizaines d'œuvres nouvelles qui tentent de rendre justice à la fois à la variété des médias d'expression, aux thèmes contemporains que les artistes mettent au travail, tout en se souciant de représenter la jeune génération comme des artistes confirmés. À travers une série de 10 épisodes, le podcast La Conversation des artistes du Fonds d'art contemporain Paris Collection ira à la rencontre de certains artistes et certaines artistes qui ont récemment rejoint cette riche collection. Aujourd'hui, notre épisode est un peu spécial. Enregistré depuis le stand du Fonds d'art contemporain Paris Collection pendant la foire Art Basel Paris, sous forme de conversation croisée entre Samuel Gratacap et Daïe Kouagou, dont les œuvres viennent d'intégrer la collection. Bonne écoute à vous. Daïe Kouagou et Samuel Gratacap, bonjour. Nous sommes le 18 octobre 2024 et notre conversation se tient aujourd'hui sur le stand du Fonds d'art contemporain Paris Collection pendant la foire Art Basel Paris. Vos travaux y sont exposés sur le stand de la collection puisque vos œuvres font partie des dernières acquisitions de l'année 2024. Mais d'abord, quelques mots sur vos pratiques. Samuel Gratacap, vous êtes photographe et votre pratique se situe à l'intersection des arts visuels et du photojournalisme. Vous explorez les lieux de transit façonnés par de conflits contemporains et les dynamiques migratoires. Votre travail valorise les récits individuels au-delà des chiffres et des discours politiques et met en lumière les réalités humaines derrière les crises dites migratoires. Dans votre dernier projet bilatéral, vous approfondissez cette réflexion en se concentrant sur le sud de l'Italie et des Alpes et par vos photographies, vous interrogez la frontière non seulement comme une ligne géographique mais aussi comme un espace mobile où se concentrent violence, souffrance et espoir, où la question de l'hospitalité et de l'inhospitalité s'alternent, tout en documentant le travail des militants qui agissent dans ces zones de passage. Les photographies acquises par le Fonds d'art contemporain Paris collection sont issues de ce travail et exposées ici pendant la foire Art Basel Paris. Nous allons en parler. Daïe Kouagou, vous êtes artiste autodidacte et performeur. Vous déployez une pratique hybride mêlant performance, vidéo, texte et sculpture sans jamais établir de hiérarchie entre ces différents médiums. Qu'il s'agisse de la matérialité des tableaux, des vidéos qui empruntent au code des influenceurs ou des performances éphémères. Le dialogue avec l'altérité est fondamental dans votre travail et par la création de personnages ou d'avatars, vous déconstruisez l'idée d'une identité fixe, explorant la fluidité et la fragmentation de l'être. Ces avatars sont souvent inspirés des codes des réseaux sociaux, agissant comme des outils critiques qui révèlent la vacuité des injonctions contemporaines à être soi-même. Derrière cette façade de sincérité apparente, vous exposez subtilement la pression et le paradoxe d'une quête d'authenticité qui vire à la norme performative. Nous allons en parler notamment en prenant pour exemple la vidéo acquise par le Fonds d'art contemporain Paris Collection et présentée ici pendant la foire Art Basel, intitulée « Will you feel comfortable in my corner ?» Première question de contexte, ça vous fait quoi de voir votre travail exposé dans ce genre de foire, Daïe?
Pour moi, c'est un espace que je connais déjà, que j'affectionne, qui me plaît pas mal. J'étais invité en 2021 par Cédric Fauque à exposer dans la Curated Section de Frieze London. Il m'avait donné le droit de faire ce que je voulais et c'est une erreur à ne pas faire, il ne faut jamais me laisser le droit de faire ce que je veux. Et j'avais décidé de construire un faux espace d'information que j'avais nommé Good People TV, dans lequel je donnais des conseils aux gens pour devenir des bonnes personnes. Donc j'avais bien aimé jouer avec cet espace qui est de foire, qui est en soi juste un espace de vente, et tenter d'en faire quelque chose d'autre, un espace de jeu. Voilà mon rapport aux foires.
Samuel, je crois que c'est différent pour vous.
Oui, c'est différent, oui, mais après, pourquoi pas aussi, hein, on peut jouer dans la foire, c'est permis, hein, c'est le moment où on peut jouer justement. On est un peu dans une représentation en tant qu'artiste dans une foire. Alors moi, c'est vrai que je connais, contrairement à Ndaïo, j'étais jusque-là pas trop présenté, par exemple, dans des foires d'art contemporain, mais plutôt dans des foires photo, parce que mon travail est quand même majoritairement photographique, quoi. Donc c'est pour moi un plaisir de découvrir mes photographies dans une foire d'art contemporain. Et ce qui m'intéresse avant tout, que ce soit voilà, dans cet événement-là ou dans des foires que j'ai pu déjà présenter mon travail, c'est aussi bah, rencontrer des personnes, pouvoir en parler, être là pour le défendre. Et voilà, on sait très bien en tant qu'artiste aussi que c'est des lieux et des moments où on peut faire des rencontres qui nous permettront aussi de montrer notre travail et de le produire aussi dans des expositions. Donc c'est des moments qui sont importants aussi pour ça. Sur le principe du jeu, après, c'est vrai qu'on est dans une représentation, donc on est... Il y a un peu cet aspect performatif que Ndayo connaît plus que moi, mais moi auquel j'ai pris goût, mais qui n'est pas évident au départ. Voilà, la foire, c'est un événement un peu ouais, où il faut jouer. Quoi.
Faut être en forme, disons. Faut être là. Alors, on pourrait croire que vos travaux n'ont rien en commun, que vos démarches artistiques s'opposent par leur forme. On l'a dit, vous, Samuel, vous travaillez à partir du documentaire et du réel, tandis que vous, Ndayo, vous déconstruisez le langage et l'identité à travers la performance et la vidéo. Mais je pourrais, dans un premier temps, questionner votre rapport à l'image, disons. Pourquoi vous avez eu chacun besoin, peut-être, ou en tout cas une nécessité, à votre manière, de travailler avec l'image ?
La nécessité de travailler avec les images, justement pour m'exprimer aussi vis-à-vis de celles qui me posaient problème. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'avais une fascination pour les images, mais qui n'étaient pas forcément des photographies au départ, parce que j'ai fait des études d'art et j'ai beaucoup, beaucoup regardé la peinture, par exemple. Et donc, j'étais fasciné, moi, plus par l'histoire de la peinture à l'origine que par l'histoire de la photographie, en tout cas pendant mes études. Mais cette nécessité, quelque part, durant les études et après aussi, de s'exprimer par rapport à un contexte politique, environnemental... et d'être dans le monde. Moi, j'avais vraiment cette nécessité pendant mes études de me sentir dans le monde et aussi de m'exprimer. Et donc les images, ça a été et la photographie, ça a été un peu le coup. C'est à la fois un coup de massue et un coup de foudre parce que j'ai découvert durant mes études des images et ça, c'est tout mon travail après qui en a découlé. Mais c'est vrai que moi, pour moi, j'ai été heurté par certaines images. Et donc les images, je les fais aussi pour un message, mais je les fais aussi contre d'autres messages. Ou contre, je les fais alors pas forcément pour passer un message, mais en tout cas pour passer des fois ceux des autres, des messages de celles et ceux que je peux rencontrer sur mon chemin. Et d'aller à leur rencontre aussi. Et j'essaie aussi à travers mon travail de déconstruire des logiques visuelles et de représentation qui ont tendance souvent à nous laisser un peu impassibles, à nous faire croire qu'on... Ah ben là, qu'on subit quoi, qu'on peut subir le monde en fait et qu'on peut subir une image du monde qu'on veut bien nous présenter, mais en fait non.
On a le pouvoir d'en proposer d'autres. Alors Ndayo, votre rapport à l'image?
Mon rapport il est différent de celui de Samuel. Je suis moins attaché à l'image, je pense. Je pense même pas y être attaché du tout. Et c'est à cause de l'époque dans laquelle on vit qui est saturée d'images. Donc pour moi c'est plus un outil, un moyen d'amener les gens à ma pratique et à mon message plutôt que une fin ou un médium. Je suis obsédé par une idée de générosité et je trouve que l'image est un moyen assez rapide et simple de donner aux gens. Donc je me dis que si les gens ne sont pas intéressés par ce que j'ai à raconter, peut-être qu'ils seront contents ou ils trouveront mes images jolies ou je sais pas. Donc c'est un peu, voilà, c'est ça mon rapport à l'image.
On peut peut-être revenir avec chacun de vous sur les travaux acquis par le Fonds d'art contemporain Paris Collection. D'abord Samuel, votre projet bilatéral est donc un ensemble qui se compose, disons, de 137 photographies dissociables, mais je crois qu'il y a aussi plus. Et de cette série, 3 photos ont été acquises par le Fonds L'Homme Allongé, Action Solidaire et Le Passage. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur l'origine de cette série et ce projet qui a démarré, je crois, en 2017 et décrire un peu visuellement ce qu'on y voit?
Donc, en effet, ouais, l'origine de cette série, alors ça part vraiment d'un désir d'aller dans ce territoire qu'on appelle le Briançonnais. Donc, c'est la frontière qui sépare l'Italie de la France avec une vallée au milieu qui s'appelle la vallée du Mont-Genèvre. Et au départ, pourquoi je m'attache à ce territoire et j'y vais pendant 2 ans et demi. Je décide d'aller sur place pour essayer d'enregistrer, de capter, de comprendre les initiatives solidaires dans cette vallée et de m'intéresser aussi plus précisément au passage et aux types d'actions qui peuvent naître dans cette vallée et aussi au comportement policier donc de la police aux frontières, sachant qu'on part du principe qu'on vit aujourd'hui dans une Europe qui n'a plus de frontières. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était dans mon pays. Donc de revenir dans mon pays après quand même pas mal d'années, donc 3 années de travail en Libye sur l'enfermement et la détention des migrants, le travail forcé, les réseaux de traite et tout ça. Donc 3 ans d'investigation, je voulais revenir en France et essayer de comprendre comment en fait, ces personnes que j'avais pu rencontrer en Libye et qui étaient passées par la Libye et jusqu'en Italie étaient accueillies, si on peut parler d'accueil. Et donc les images que vous voyez donc sur le stand, qu'on peut découvrir sur le stand du Fonds d'art contemporain de la ville de Paris, il y a trois photographies, deux verticales et une horizontale. Une première photographie qui s'appelle L'homme allongé, où on voit un homme au milieu d'une nature verdoyante, chatoyante, qui est magnifique. Cette vallée qui est la vallée du Mont-Genèvre est une vallée qui est très connue pour ses pistes de ski, pour son golfe transfrontalier, qui permet aux personnes qui en ont les moyens de se balader tranquillement sur la frontière sans être contrôlés, sans qu'on leur contrôle leurs papiers, sans contrôle aux faciès aussi, parce qu'il faut savoir que des personnes qui sont contrôlées, et j'en ai fait l'expérience majoritairement, sont des personnes de couleur. J'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire j'ai pu l'observer. J'ai moi-même du coup eu des conflits avec les forces de l'ordre en accompagnant, pour le bien de mon projet, des personnes qui faisaient des actions solidaires et des actions de balisage. J'en viens aux actions de balisage parce qu'il y a une des trois photographies que vous pouvez découvrir sur le stand qui montre un point de couleur dans la vallée. Donc ces actions faites à base de bombes de chantier, donc fluo, c'était des actions qui permettaient de créer un safe passage, donc un passage sûr pour que des personnes ne se perdent pas, ne se blessent pas et soient accompagnées dans leur traversée sans être accompagnées physiquement, parce que le système judiciaire en France condamne aussi toute action de solidarité en s'appuyant sur une loi qui parle de l'aide à l'entrée illégale sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que si la police arrête une personne qui a des papiers français avec des personnes qui n'ont pas les papiers sur le passage précis entre la France et l'Italie, sachant que la frontière n'est pas physique, elle n'est pas matérialisée. Donc ça juste sur des enregistrements, sur des captations de la police, tout ça. Voilà, l'idée, c'est de créer des moyens, des subterfuges pour pouvoir accompagner des personnes dans leur passage sans les accompagner physiquement. Le troisième photo, c'est une photo qui pourrait sembler être une vue aérienne, mais qui n'en est pas une. C'est une photo que j'ai prise en voulant aller tout en haut de la vallée du Mont-Genèvre pour faire une vue de paysage en hauteur. Et en fait, au moment, au milieu de ma montée, donc sur un espèce de remonte-pente, un homme est passé. Alors, je ne sais pas qui est cet homme, je ne saurais jamais qui est cet homme. Voilà, il y a aussi cette dimension-là qui est posée dans ce travail-là. Il y a la notion d'anonymité et de parcours croisé entre des hommes politiques, des CRS, des solidaires et des personnes en mouvement. Et tout le monde est anonymisé.
Ce sont des corps entre souffrance et mouvement, traqués, épuisés, parfois juste des ombres, mais gardent toujours l'énergie d'avancer. Les pas sont lourds, chacun nécessite un effort contraint, puis les corps se rapprochent et se soutiennent, se prennent par la main. Leur propre désir de vie, de rencontre, d'apprentissage fait front contre l'indésirabilité que les puissants des États-nations collent à leur peau. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de l'anthropologue Michel Agier à propos de vos photographies des migrants marchant dans la neige. Je crois que vous connaissiez ce texte. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ?
Enfin, je connais bien le travail de Michel Agier. Ça faisait depuis un moment que j'avais envie de travailler avec Michel. Pour le coup, Michel ne connaissait pas beaucoup la région parce qu'il n'y est pas allé beaucoup. Mais par contre, il avait lu des articles et il était au contact d'associations comme l'association Tous Migrants qui avait créé un refuge solidaire à l'époque à Briançon, mais qui a été fermé depuis. Et Michel, dans ce texte-là, il revient en effet sur la description du passage. Donc du coup, ce qui était assez intéressant, c'est qu'entre le travail photographique et le texte de Michel, il y a une complémentarité qui se pose. Cette réalité-là, j'arrive pas réellement à la poser avec les mots parce que le récit se construit dans ce que j'ai fait avec l'expérience que j'ai fait du territoire, mais aussi et surtout avec les images, un récit par l'image. Mais Michel revient sur l'expérience du passage, qu'il connaît bien à travers différents récits qu'il a pu enregistrer pour son travail dans son travail d'anthropologue. Et il revient aussi sur un événement qui est assez important dans la vallée, qui est la mort de Blessing Mathieu, qui est une jeune femme nigériane, qui est morte noyée dans la Durance après avoir été chassée par la police française. Il y a toujours une instruction en cours, en fait. Il y a une enquête qui a été menée. Donc, cette jeune femme est décédée. Du coup, et c'est ça que produisent les frontières aujourd'hui en France, c'est-à-dire elles produisent de la mort. Et ce qui m'a intéressé dans tout ce travail, c'est de m'approcher des personnes et d'être au contact de gens dont on a une idée qui peut être un peu galvaudée. Les solidaires sont très différents les uns des autres. Pas forcément tous des no-borders. Il y a des personnes qui sont à la retraite, il y a des personnes qui vont être solidaires un jour, il y a des personnes qui seront solidaires toujours. Des personnes qui se risquent à aller dans la montagne pour faire des maraudes et essayer de voir si des personnes sont en difficulté, au risque d'avoir des problèmes avec la justice. Il y a des personnes qui accueillent pour une nuit, deux nuits, un mois, un an. Et en fait, tout ce réseau-là n'est pas une organisation. Ce n'est pas une organisation criminelle, ce ne sont pas des passeurs. Et ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir un peu toutes les formes de solidarité que pouvait prendre la solidarité, sur qu'elles sont vraiment très très différentes. Et le texte de Michel explique bien tout ça. C'est-à-dire que les frontières et les lois produisent aussi de l'illégalité, là où il devrait y avoir de l'humanité. Et que l'illégalité, elle est aujourd'hui... Enfin, l'illégalité dans le sens où d'être hors la loi et d'avoir un comportement qui est en dehors de la loi, elle est aujourd'hui mise en danger. Enfin, elle est quelque part... La loi met en danger toute initiative d'humanité. Et au profit de la violence, en fait. Une violence qui devient systémique, qui devient cette mort de Blessing Mathieu. Il y a plus de 20 personnes qui sont décédées sur cette zone frontière entre la France et l'Italie. Et voilà, et a priori, on va dans un... on va pas dans le sens de l'accueil et de l'hospitalité aujourd'hui en Europe. Et moi, ça ne fait que réconforter l'idée que je dois encore continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, que je dois encore aller dans des endroits où ces initiatives existent encore pour les montrer et pour arriver à les expliquer aussi.
On va creuser tout à l'heure, peut-être quelques mots avec vous, Daye Kouagou. Votre vidéo « You feel comfortable in my corner » créée en 2021 s'étend sur un peu plus de 4 minutes, un exercice de communication direct où l'adresse est frontale, le choix du cadrage centré sur le buste devant un fond gris neutre accentue l'intimité de l'échange tout en rendant visible l'hésitation, la réflexion à voix haute qui ponctue comme ça le discours. Il y a un jeu avec les codes visuels de la mode et de la communication contemporaine que vous maîtrisez par ailleurs, qui donne à voir une esthétique séduisante en posant et en réitérant cette question titre « Will you feel comfortable in my corner ?» Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce projet et sur ce que ce coin, corner, charge comme sens polysémique dans ce projet ?
Alors oui, cette vidéo, déjà, je suis content que ce soit celle qui était acquise par le fond. Elle était originellement en anglais et elle a été traduite l'année dernière pour une exposition au Fracile de France. Et c'est la première fois que j'avais les moyens de pouvoir traduire, pas seulement en sous-titres, mais de faire doubler une vidéo, ce qui était important pour moi et pour l'équipe du FRAC, pour donner une plus grande accessibilité à mon travail au public français. Donc cette vidéo, à l'origine, elle a été produite pour la Biennale d'Athènes. Elle était accompagnée d'une installation et tout est dans le titre, en fait. L'idée, c'était d'aller vers l'autre et de questionner l'altérité et de se demander comment l'autre se sentait dans mon monde. Et aussi se rendre compte que mon monde n'était pas très différent du monde des autres. En soi, je trouve que c'est là où je peux faire le lien avec le travail de Samuel. C'est la question de réaliser ce qu'est l'autre et la similarité qu'on a avec l'autre. Et ce qui est, par exemple, les différences réelles ou imaginées créent le manque de solidarité. Donc je pense que... Moi, c'était assez évident quand j'ai vu le travail de Samuel. Ce qu'on cherche à faire, au final, c'est déplacer les regards et se faire poser des questions afin d'avancer dans une direction qu'on, je pense, on juge Samuel et moi meilleure.
Je vais vous poser une question précise là-dessus, sur vos regards croisés sur le travail de l'autre. Mais pour revenir un peu sur la vidéo, c'est aussi la question de la construction d'un avatar ou d'un personnage qui est aussi peut-être intéressant à s'attarder dessus. C'est un procédé récurrent dans votre travail, je crois, qui semble vous permettre de créer une distance critique entre l'artiste que vous êtes et le propos que vous cherchez justement à nous faire comme ça, à faire résonner en nous. Et quelle autre possibilité ou liberté vous permet l'utilisation de l'avatar ? Quel outil finalement est cet avatar ?
Alors l'idée de l'avatar, c'est de créer un personnage qui est identifié par un plus grand nombre que ma simple personne. Je pense que si je mets mon visage et ma voix, on me reconnaît tout de suite comme ce que je suis socialement. Mais en changeant ma voix et en m'habillant d'une manière qui décale du quotidien, ça permet de créer ce personnage qui est un peu personne et donc un peu tout le monde.
On peut peut-être essayer de décrire ce qu'on y voit.
On y voit donc ce personnage qui est filmé de face avec un effet qui est volé de TikTok. Le nez du personnage ne quitte jamais le centre de l'image, qui est assez bizarre à regarder. Et donc ce personnage est doublé, et dans la version française, est doublé par Pascal Clark, la journaliste française. L'idée, je lui ai demandé de me doubler parce que dans ma volonté d'aller vers l'autre, ce qui est le plus simple pour s'approcher de quelqu'un, c'est d'être familier. J'ai dit à Pascal que sa voix avait été à l'intérieur de presque la maison de tous les Français. Donc il n'y avait rien de plus familier. Donc elle a accepté de me doubler. Et c'était vraiment une envie d'amener quelque chose, une forme qu'on connaît, qu'on reconnaît, parce que ça ressemble aux réseaux sociaux. C'est une voix identifiable, familière. Et ensuite, ça permettait de pouvoir poser des questions directement. Et c'est ce que je cherche à faire, c'est vraiment aller à l'autre et supprimer les barrières sociales qu'on s'est construites ou plutôt que le système nous a fait construire.
L'adresse, je pense, est importante dans votre travail. On va aussi revenir à un moment donné parce que je pense que le souci de la réception en tout cas dans votre travail, est une question. Mais je reviens à Samuel avec une question un peu, encore une dernière question sur le projet en lui-même. C'est-à-dire que pour moi, ce qui distingue Bilatéral des autres projets, disons qu'ils peuvent traiter de la question migratoire, enfin avec beaucoup de guillemets, c'est votre engagement à rendre visible l'invisibilité des migrants. Enfin, des fois qu'on cherche comme ça à chasser, vous créez un espace où la dignité humaine en tout cas émerge au milieu des difficultés, tout en faisant écho aux actes de résistance et de solidarité qui existent dans ces zones-là, notamment les zones frontalières. Ici, la zone frontalière est un paysage de montagne, vous l'avez dit, hospitalier aux randonneurs et qui peut être inhospitalier pour les personnes qui tentent de faire la traversée franco-italienne. Mais comment trouver l'équilibre entre la nécessité de rendre ces récits visibles et le risque, peut-être des fois, d'essentialiser les personnes aussi ? Comment vous jouez à trouver le juste équilibre ?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, ça, c'est une question qui se pose à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle série. Comment on commence un projet, comment on l'amène, comment on l'explique. Bah, trouver sa place, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que généralement, je passe du temps dans des endroits pour que des gens puissent m'identifier, que je ne fasse pas les choses dans mon coin et m'investir aussi. C'est-à-dire que... j'ai toujours été confronté, finalement en confrontant et en étant au contact de personnes qui étaient en grande vulnérabilité, en grande précarité, à la nécessité, mais c'est pas la nécessité, c'est même, se retrouver dans des situations où c'est normal de s'investir. Et en fait, c'est les moments où on fait plus de photos finalement, et où la photographie devient un peu obsolète et inutile. Donc moi, j'y retrouve un peu mon équilibre justement quand j'arrête de faire des photos. Et c'est comme ça que je me sens aussi en phase avec ce que je suis en train de construire. Sur la question de l'anonymat et de l'essentialisation des personnes, c'est ça, c'est un équilibre en fait. Et ça, on en rend compte à travers un livre, une exposition... et des anecdotes en fait aussi, c'est-à-dire des histoires que moi j'ai pu enregistrer ou qu'on m'a racontées. C'est aussi parfois, c'est-à-dire passer et ne pas hésiter à dire qu'en fait cette personne, j'ai pu passer 10-12 kilomètres à marcher avec elle, je me souviens plus de son prénom. C'est-à-dire de revenir d'une expérience en se disant que l'expérience en elle-même, elle a été réussie dans le sens où des personnes ont pu atteindre la France, mais que l'essentiel ne se passait pas dans la... discussion, c'était vraiment être ensemble quoi. Je sais pas, c'était pas, je faisais pas un travail d'information à ce moment-là non plus. C'était vraiment réaliser une marche. Alors en plus, la solidarité est dans ce contexte-là et on revient à la performance, ce travail d'Endaye, mais les initiatives solidaires, il y en a une qui m'a beaucoup plu dans cette vallée-là, c'est que une personne avait eu la super idée de passer avec, souvent en jogger, donc en s'habillant en jogging en fait, pour se faire passer pour quelqu'un qui faisait du trek ou du trail en montagne, et ça passait à chaque fois quoi en fait. Donc il y avait vraiment aussi des fois des initiatives qui, au-delà de coups de bombe de peinture ou des petits bouts de ficelle ou des habits qui étaient laissés dans la montagne, il y avait vraiment ces initiatives performatives où des personnes, donc une femme en l'occurrence italienne, faisait ça, s'habillait en jogger, habillait l'homme qui devait passer aussi en jogger, et il passait comme ça. Moi, je trouvais ça super intéressant, ces initiatives-là, comment aussi contrer, faire basculer les regards aussi, parce qu'en fait, des policiers qui voient quatre hommes de couleur traverser la montagne, ils ne se posent pas la question deux fois, ils vont aller vers ces personnes-là plutôt qu'aller vers quatre blancs, quoi. Et ça s'appelle du délit de faciès, en fait, et ça, c'est dans la montagne, mais c'est aussi dans Paris, c'est partout, en fait. Voilà. Et c'est un délit, et j'ai vu des comportements délictuels de la part de la police. Donc bref, pour revenir à mon travail... l'essentialisation des personnes aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai construit des amitiés avec certaines personnes. Et les amitiés, vous le savez, comme moi, c'est pas, on les compte sur le bout de la main. Mais des rapports vraiment sincères avec un petit nombre de personnes qui sont vraiment des rapports humains. Et ça aussi, ça crée un équilibre qui est assez salutaire pour tout le monde, en fait. Parce que ça crée du lien. En fait, on est là, on crée du lien. Des fois, des personnes ne viennent pas chercher ça. C'est parce que des personnes sont en migration. Qu'elles veulent être accueillies dans le Briançonnais ou qu'elles veulent rester là en fait. Elles ont leur voie, elles ont leur chemin, elles ont leur agenda et elles sont pas là forcément pour créer des amitiés avec toutes les personnes qui auront le cœur sur la main et qui vont leur venir en aide en fait. C'est aussi ça, une grande humilité, j'ai appris aussi au contact de personnes aidantes et de personnes en migration.
Alors, vous avez pu découvrir chacun le travail de l'autre en arrivant aujourd'hui sur le stand du fond avant notre discussion. Et est-ce que vous auriez un commentaire ou un ressenti à nous partager ou une question à poser à l'autre ?
Ah,
Samuel en a une, il est prêt.
Non, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a... coup que je trouvais intéressante, c'est ce décalage des fois. Alors j'ai pas pu écouter, il faut savoir que dans une foire il y a énormément de sons et de résonances, donc, alors qu'il y a une partie sonore qui est hyper importante, parce que tu le disais, il y a une voix off, et je me demandais par rapport, il y avait un espèce de mouvement qui était un peu un mouvement qui était induit, je sais pas si c'est induit par la voix ou en tout cas il y avait une construction qui s'est faite au montage et qui était un peu mystérieuse pour moi, et je voulais savoir ce que c'était. En fait ton corps des fois a des mouvements saccadés un peu robotiques, je sais pas en fait, et ouais voilà, je me posais juste la question à la fois technique du montage mais aussi du sens que ça pouvait avoir.
Il y a plusieurs raisons, donc oui il y a simplement la réalité technique du montage, mais l'idée en créant ce personnage c'était de créer un avatar, donc un personnage qui a l'air réel mais où les choses ne font pas vraiment sens, donc la voix n'est pas en adéquation avec le physique, les mouvements sont bizarres, et ça aussi c'est un moyen de supprimer l'identité de ce personnage. Je pense que c'est un peu quelque chose qu'on voit beaucoup avec les images générées par des intelligences artificielles, etc. C'est des images qui au final n'ont aucune identité mais qui dans l'espace occidental sont reconnues, enfin. Et j'aime bien ce truc-là, ces caractères qui sont de nulle part, des images qui ne veulent rien dire. Et ce personnage, il est un peu comme ça. C'est un boui-boui de l'Occident, quoi. Donc ses mouvements sont bizarres, sa voix ne va pas avec son corps. Et j'aime bien ce truc-là, voilà.
Est-ce qu'on a le match retour, hein ? D'ailleurs, réfléchis. Prends le temps de la réflexion.
Je ne pense pas avoir de questions. Enfin, Samuel a répondu aux questions déjà. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est de voir qu'au final, nos volontés sont assez proches. Et on a pris des moyens qui sont totalement différents. Et c'est un peu, c'est mon côté romantique, la beauté des pratiques artistiques, on va dire, que je découvre maintenant.
On va parler par une simèse, mais on va la casser, cette simèse, c'est pas possible. La casse avec notre prise de parole.
Et ce podcast va y participer déjà. Alors bien que vous travaillez des médiums différents, vous interrogez des questions profondément humaines. Samuel, vous documentez les vies précaires et marginales des migrants, tandis que vous, Daïe, vous explorez l'introspection, la fragilité identitaire et l'absurdité de l'existence parfois. Mais je pourrais dire que le thème de la vulnérabilité en creux est en commun à vos deux travaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie aussi de révéler à travers vos travaux, ou est-ce que c'était pas forcément conscient de votre part ? En tout cas, moi j'ai souligné ça en commun. Après, je vous laisse peut-être abonder ou contredire.
Pour ce travail qui est vraiment spécifique et sur bilatéral, les récits de la vulnérabilité, c'était pas la question, ou en tout cas la réponse numéro un à toutes les questions que je me posais, mais c'était plutôt au contraire des récits de force que je voulais montrer. De personnes en mouvement, de personnes pourchassées, mais entourées, de vigie, de personnes qui sont là pour en fait veiller à ce que l'humanité perdure, que des gestes d'entraide et de soutien soient sans cesse activés, ce qui demande une grande patience et un grand courage et une grande énergie. Donc je voulais saluer ça aussi par ce travail-là, je voulais montrer tous ces gestes. Le récit de la vulnérabilité, je l'avais beaucoup traduit en photographie, en récit sur la Libye en fait. Et on passe pas d'un projet à un autre parce qu'on en a marre, mais je pense que j'avais aussi besoin de voir une note d'espoir dans ce monde. Je pense qu'en Libye, j'avais vu beaucoup de désespoir, j'avais vu beaucoup d'effroi, beaucoup de morts, parce que la guerre, parce que ces lieux abominables financés par l'Europe en fait, des centres de détention. Et j'avais besoin à la fois de critiquer le geste politique, donc par toute une série de sérigraphies qui introduisent le travail de bilatéral, où on voit des personnalités politiques en train de signer des accords bilatéraux. Donc c'est pour ça que le nom de la série tire son nom des accords bilatéraux qui sont signés entre deux pays pour passer des accords sur la migration, et qui entraînent en fait, on le sait très bien, ces accords-là entraînent des difficultés. En fait, il y avait aussi l'idée de déconstruire, on en revient un peu aux images et au traitement des images, c'est-à-dire que je voulais inverser un processus, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de texte, et j'accompagne pas ce travail de texte, il y a juste le texte de Michel, mais je voulais que la réalité politique, elle devienne une forme abstraite, totalement abstraite, et que je la... Non seulement je l'abstracte, je sais pas comment on pourrait dire, que je l'abstracte.
Vous la rendez abstraite.
Je la rends abstraite, mais aussi qu'elle se... que je la salisse un peu, que je la manipule, que je la détériore. Et qu'on passe d'un récit, d'une représentation un peu détériorée et aussi un peu naïve, hein, où des personnalités politiques n'ont plus de face, n'ont plus de visage, où je les anonymise, à un récit qui est un récit humaniste, quoi. Mais la vulnérabilité dans tout ce travail-là, elle est très bien décrite par Michel à la fin. On revient au texte et à la notion de témoignage. Mais...
C'est pas une notion que vous rejetez pour autant, c'est juste que c'est pas l'axe central qui a été au travail.
Sur ce travail-là, pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas présent. Moi, je connais des situations derrière les images, chacune des situations, elles se sont modifiées. Bien sûr que voilà, les personnes étaient en extrême vulnérabilité, mais en fait aussi il y a des images que j'ai pas faites. Donc il y a des images où il y a des personnes étaient en effet. On m'a demandé même d'arrêter de faire des photographies pour aider en fait, parce qu'il fallait porter des enfants quoi. Donc on m'a demandé là de prendre un moment, on m'a mis un nouveau-né dans les bras quoi. Parce que du coup, c'est là où je reviens à l'idée qu'on se fait de la photographie ou de l'engagement et de l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure. Des fois, on se retrouve au milieu d'une machine, d'une logique d'entraide et, humaine où en fait, le projet, il passe un peu au second plan, quoi.
Après, la question de la vulnérabilité, c'est aussi comme potentielle source de force, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes potentiellement ou théoriquement vulnérables dans leur statut, mais cette vulnérabilité-là, elle génère aussi une force assez inimaginable, en fait.
Oui, elle génère une force, mais la vulnérabilité, elle a tous les étages. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas forcément que des personnes qui sont en train de passer, mais c'est souvent la précarité qui s'occupe de la vulnérabilité. Donc c'est des personnes qui sont volontaires, retraitées, qui ont peut-être une retraite qui est très maigre, peut-être même, et certaines personnes sont dans des logiques qui sont des logiques de précarité, de squat, mais de vie communautaire aussi. Mais précarité, ça rime pas forcément avec... Avec mal-être.
Oui, absolument, absolument.
Mais en fait, en tout cas, voilà, et ça, c'est un autre projet, c'est un autre sujet, mais le sujet de la vulnérabilité, en ce qui concerne en tout cas des récits de migration et d'entraide, elle peut se poser à tous les étages, et pas forcément que vis-à-vis d'une personne qu'on penserait être les seules concernées par ce problème.
Naïe, sur cette question de vulnérabilité.
J'ai vraiment envie de réagir à ce que vient de dire Samuel, parce que j'ai le sentiment d'être l'autre côté de la pièce, là où Samuel veut montrer la force de gens ou d'espaces qu'on juge vulnérabilisants, vulnérabilisés. Moi, je cherche à déconstruire justement ce qu'on considère être une force et qui sont des forces individuelles qui rejettent l'idée de groupe, l'idée d'entraide, le développement personnel, enfin toutes ces choses-là qui, au final, ne créent aucune force. C'est l'autre penchant de vouloir projeter cette force dans une vie individuelle et qu'on aide seulement dans des cas de vulnérabilité ou de galère et qu'on est seulement avec l'autre pour l'aider, c'est un peu, pour moi c'est vraiment le problème de notre époque et je suis vraiment content de voir ce que fait Samuel et le message qui est passé avec justement redonner une existence à ces gens. Aussi quelque chose que je vois en regardant les photos, c'est on dit vulnérabilisé, mais c'est des gens qui vont traverser des montagnes. C'est un peu... Moi, je traverse pas une montagne, quoi. Donc,
Mais justement, en fait, vos approches divergent, mais voilà, il y a pour moi quand même quelque chose qui est en commun. Et c'est vrai que là, on vient toucher un endroit assez intéressant de miroir entre vos travaux. D'ailleurs, vous partez du registre de la fiction, même d'une forme d'autofiction, alors que vous, Samuel, vous êtes vraiment ancré dans le réel et que vous tentez de le fixer. Est-ce que, dans ce cas-là, la question, est-ce que la fiction ou l'autofiction peuvent être envisagées comme des outils d'émancipation ou une manière de créer aussi un narratif qui manque dans le récit commun ou de déconstruire un récit commun, enfin toutes ces stratégies comme ça de créer de l'air là où il n'y en a pas, et inversement comment l'approche documentaire trouve des manières de transcender ou de dépasser la dureté ou une dureté un peu comme ça collée sur un réel qui peut parfois nous faire suffoquer. Mais donc voilà, comment en fait vous faites chacun des pas de côté?
Oui, c'est encore ce que je disais tout à l'heure avec déplacer le regard. Samuel, il le déplace littéralement, il nous amène là dans des espaces où on devrait regarder, là où moi je vais plutôt nous montrer ce qu'on regarde tous les jours, mais d'une autre manière pour se rendre compte que ce qu'on regarde, faut peut-être le remettre en cause ou peut-être ça contient des choses pas forcément positives à certains endroits et vice-versa. Je laisse Samuel compléter.
Non, mais en fait, ce qui est assez beau dans le travail de Ndaye, que je viens de rencontrer, mais c'est aussi l'approche, moi... Et c'est ça qui est beau dans l'art aussi, c'est qu'on peut parler de choses graves, c'est-à-dire en naviguant, en convoitant différentes formes différents sentiments, mais qui passent par l'humour, ou par la gravité, par ça. Et je suis assez admiratif, c'est vrai, d'avoir cette habilité-là, en fait, tu vois, dans ce travail-là, c'est-à-dire aussi de ne pas se prendre au sérieux. C'est quelque chose qui est plus compliqué. Je parle toujours de choses et des gens et de personnes qui traversent des choses qui sont compliquées parce qu'on leur met des bâtons dans les roues, parce qu'elles ont du mal à faire face par rapport à des situations périlleuses, parce que c'est la guerre, parce que c'est l'exil. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est important de faire aujourd'hui, c'est-à-dire reconstruire des récits fictionnels autour de... de notions contemporaines et de choses qui rejoueraient, qui rejoueraient en tout cas une partie la gravité, de gravité de notre monde, ça me paraît essentiel.
Alors peut-être pour aller encore plus loin, mais prenant un peu aussi de hauteur dans son sens, est-ce que Samuel, vous envisagez votre statut d'artiste documentariste comme étant porteur d'une responsabilité sociale envers les sujets que vous représentez, disons, pour le dire encore autrement, est-ce que vous estimez que votre travail peut engendrer des actions concrètes ou des changements politiques?
Cette question-là, elle peut se poser sur mes différentes pratiques parce que, comme je le disais, je travaille pas uniquement en tant que... Je suis photographe, mais les projets ont une existence et je travaille sur du long terme, sur des projets qui sont des projets documentaires, donc qui finissent dans des expositions ou des livres. Après, j'ai une autre casquette qui est celle du photojournaliste où là, je travaille pour un média en particulier, pour un journal avec des collègues journalistes rédacteurs, où on construit des enquêtes, on essaye de travailler vraiment pour informer. Que ça change quelque chose, je suis pas sûr. Alors que ça informe, ça certainement, que ça mobilise les consciences, c'est sûr. Que ça change la donne, je suis pas sûr. Par contre, qu'on nous dise pas que ça n'a pas existé, ça c'est vraiment une victoire aussi, parce que c'est-à-dire que quelque part, à un moment, à un endroit, les choses auront été dites, enregistrées. Et ça me paraît essentiel. Donc ça, c'est un peu... La responsabilité sociale, j'ai pas l'impression de la porter, parce que c'est quelque chose que j'aurais du mal à, disons, en tout cas tout seul. Et c'est pour ça que l'idée de collectif et de communauté, de solidaire m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'aujourd'hui, quand on est photographe, quand on est artiste, on peut, il y a des collectifs qui existent, il y a des initiatives communes et solidaires aussi qui existent dans le domaine des arts, mais moi je suis pas du tout là-dedans, on est souvent seul dans nos pratiques. Et la question de la responsabilité sociale, j'aurais du mal en tout cas à la porter seul. Par contre, la responsabilité en tant que photographe, c'est d'avoir mis un pied dans une histoire et d'avoir du mal à la quitter, là je la porte parce qu'en fait je sens qu'autour de moi, d'autres photographes font un travail, font le même, sont photographes, mais participent à quelque chose que moi je rejette complètement. Et du coup, plus ça va et plus je sens que par moment, cette responsabilité, je la porte et je dois continuer à la porter parce qu'autrement... Le même narratif, la construction d'un même narratif autour des questions migratoires et des questions de l'exil continuera à perdurer, alimentera les discours politiques haineux envers xénophobes, envers l'accueil. Et ça, c'est danger, quoi, pour moi. Voilà.
D'ailleurs, j'ai le sentiment, on le disait tout à l'heure, que vous faites partie des artistes qui se soucient d'abord et en premier lieu des personnes à qui l'œuvre s'adresse. On le disait tout à l'heure. Probablement un point commun, en tout cas avec Samuel, vous êtes autodidacte, vous n'êtes pas passé par l'école d'art, mais par la mode. Vous êtes entré dans l'art, si je peux dire, sans romantisme, ce qui vous a aussi poussé à questionner l'institution, non pas à travers une quelconque héritage biberonné à l'histoire de l'art, mais à travers votre propre background, c'est-à-dire les réseaux sociaux et la pub. En quoi cette question de l'adresse, elle a aussi une portée politique, disons, dans votre travail engagé? C'est pour revenir aussi à la question de Samuel.
C'est très simple, c'est une question d'accessibilité. Et l'accessibilité, surtout pour l'art contemporain, je pense qu'il n'y a rien de plus politique. Mon accès à l'art, moi, il a été facilité par l'école. Et une fois que je suis sorti de l'école, c'est l'art contemporain, toutes les formes d'art ont disparu de ma vie. Quand j'ai voulu me lancer dans cette carrière artistique, j'ai compris que ce moment de trou, cette perte d'accès à l'art était un handicap pour accéder à ces espaces de manière professionnelle. Et donc j'aimerais bien, d'une manière ou d'une autre, mettre fin à cette boucle, ouvrir l'accès à l'art à des publics qui ne s'est pas adressé. Je pense que si on regarde autour de nous les profils sociaux à Art Basel Paris, on va vite se rendre compte que c'est des gens qui sont assez aisés, très bien habillés certes, mais c'est pas la grande population, quoi. Et je pense que ça c'est une vraie perte, parce que des gens moins aisés auraient tout autant, voire plus de raisons d'avoir accès à l'art contemporain, qui est pour moi le plus grand espace de liberté de création que j'ai jamais connu. La possibilité de forme est tellement grande qu'on puisse m'exposer moi à côté de Samuel. C'est ouf, il y a peu d'espace où ça peut faire sens et on peut se permettre d'aller aussi loin dans s'approcher du journalisme, s'approcher du théâtre, s'approcher de l'édition. Donc oui, pour moi, je pense avant tout au public quand je crée des formes, parce que j'ai été public, je me suis senti exclu et j'ai pas envie que qui que ce soit ressente ça dans aucun espace d'exposition.
Alors, dernière question à vous deux. Pour vous, être artiste, est-ce que c'est une vocation, une opportunité ou une nécessité?
Dans mon cas, c'est une opportunité. Moi, je me vois comme un auteur. Et quand j'ai décidé de vouloir pousser mes formes de création. J'ai compris que le texte était un moyen très difficile de gagner sa vie, là où l'art contemporain permettait à des formes qu'on ne peut voir nulle part d'être montrées et exprimées. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, mon travail allait être de donner forme à mon texte. Et donc j'en suis venu à la performance d'abord, puis la vidéo, l'installation. Donc oui, c'est vraiment une opportunité. On m'a présenté, ou plutôt je me suis présenté à cet espace d'art contemporain et j'y ai compris qu'on pouvait y faire plus ou moins tout et j'ai trouvé que c'était comme assez beau comme proposition et j'ai adapté ce que je faisais pour qu'il puisse exister dans cet espace.
Samuel ?
Je sais pas, c'est un peu les trois à la fois. En même temps, moi j'ai un parcours que je peux difficilement dissocier de là où j'ai grandi et du parcours de mes parents. Mon père enseignant d'art plastique, ma mère était directrice de centres sociaux dans une cité. Donc je suis pur produit de deux personnes qui sont toujours engagées, l'un du côté de l'enseignement, l'autre du côté de l'aide aux personnes, de proposer des activités dans des endroits qui étaient des endroits de relégation. L'école aussi parfois était un endroit de relégation. Et de deux personnes qui ont toujours été très engagées politiquement. Et donc, je ne sais pas, c'est sûrement un mélange des trois. Après, avec l'envie quand même d'aller des fois un peu plus loin, c'est-à-dire aussi de me faire ma propre expérience, bien sûr, du monde. Et de les faire flipper aussi un peu parfois. Mais ce n'était pas vraiment une envie. C'était, voilà, du coup, par moments, une nécessité aussi d'aller dans ces lieux et d'y arriver, quoi. C'est-à-dire de me fixer des objectifs et d'y arriver. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Mais donc, d'aller dans des lieux où on se dit, bah, en fait, ça va être, tu t'es sûr que tu vas aller là. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. D'autres aussi, d'y aller un peu, quoi. D'être un peu naïf aussi par rapport à cette réalité-là, mais de me la prendre dans la figure. Moi, j'ai retrouvé une grande liberté à étudier, à aller à l'école d'art, en fait.
Vous avez fait les Beaux-Arts de Marseille.
J'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux, puis de Marseille. Ouais, j'ai fait une équivalence où j'ai eu mes deux diplômes à Marseille. Mais pour moi, c'était très compliqué, les études. Et c'est vrai que j'ai senti tout de suite un espace d'accueil et de possibilités où on pouvait s'exprimer, produire des formes et tenter de les expliquer, quoi. Donc, ça a été une grande libération. Et c'est vrai que c'est chouette aujourd'hui de se retrouver en effet dans une collection comme celle du Fonds d'art contemporain de la ville de Paris, parce que c'est des collections qui sont amenées aussi à rentrer dans les écoles. Et on en revient un peu à la boucle, mais cet exercice de médiation auprès des élèves, je l'ai déjà fait en collège, de parler de mon travail, de parler de ma démarche. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important aussi. Et donc, on revient aussi à la responsabilité sociale. Peut-être qu'on y répond aussi en allant et en accompagnant nos œuvres dans ces espaces-là. Et en effet, là où l'art et les foires n'iront pas, on peut se déplacer. Enfin, c'est aux artistes aussi peut-être de se déplacer. C'est vrai que c'est chouette d'être au sein de ces collections pour ça, quoi.
C'est un joli mot de la fin. Merci à vous deux, Samuel Gratacap, Ndaye Kouago. Je vous laisse aller rencontrer votre public qui est là, nombreux aujourd'hui, sur le stand de Le Fonds d'art contemporain, Paris Collection. Merci à vous encore.
Vous pouvez retrouver le podcast La Conversation des artistes du Fonds d'art contemporain Paris Collection sur les principales plateformes d'écoute ainsi que sur le site du Fonds Paris Collection.